La question du jour, c'est quand quelqu'un meurt, que devient son ange, son ange gardien? Il est au chômage? Il fait plus rien? Il est redistribué à quelqu'un d'autre pour reprendre du service? Je le dis avec humour, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai eu répondre à cette question-là, mais j'en profite avant pour vous dire que dans notre vocabulaire, souvent on dit quand quelqu'un décède. Ben ça, c'est pas un vocabulaire chrétien. Nous, on meurt, on décède pas. Le décès, c'est une manière gentille, édulcorée, d'essayer d'éviter la réalité de la mort. Alors que dans le mot mort, c'est pas de la linguistique, pas de la sémantique, ça. Mais dans la notion de la mort, il y a en même temps l'idée de la résurrection. Donc un homme, et je crois les femmes aussi, nous, on ne décède pas, on meurt. On ne crève pas non plus d'ailleurs. Mais si je dis ça, ce n'est pas par vulgarité, c'est parce qu'on prend une autre habitude qui n'est pas meilleure. C'est quand un animal finit sa vie, on dit qu'il meurt. Eh bien non, un animal ne meurt pas. Un animal crève. Et c'est pas pareil. Mon chat, il est crevé. Et c'est pas vulgaire, c'est le mot d'un être biologique. Dont les organes cessent de vivre, ils crèvent. Comme une plante, un arbre crève, un arbre ne meurt pas. Moi-même, je dis souvent, c'est pas une, mais il faut apprendre à avoir un vocabulaire juste, parce que derrière, il y a toute une notion religieuse ou pas. L'Occident et notre monde occidental, c'est-à-dire le monde moderne un peu partout maintenant, est devenu un monde athée, c'est-à-dire un monde sans Dieu, où on évince petit à petit tout ce qui fait toute allusion à ce qui est transcendant, c'est-à-dire à tout ce qui nous dépasse, à tout ce qui est spirituel. Et on acquiert comme ça un vocabulaire purement scientifique et avec un mélange où les mots qui ont une signification proche sont complètement mêlés de manière à ce qu'on ne puisse plus savoir ce qui est sacré ou ce qui ne l'est pas. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait plus quand quelqu'un meurt, si c'est une personne, si c'est un cheval. Si c'est une souris ou si c'est un géranium. Mais on ne le sait pas davantage d'ailleurs quand quelque chose crève. On dit aussi pour les personnes, il est crevé. Ça manque d'élégance cette fois-ci en plus. Mais prenons le bon vocabulaire. Donc quand quelqu'un est mort, que devient son ange gardien? L'ange gardien n'est pas un outil. C'est un être personnel, spirituel, qui est attaché à chaque personne, mais il n'est attaché qu'à cette personne-là. Et comme nos personnes sont immortelles, en ce sens qu'après la mort, il y a la résurrection, donc la vie éternelle, l'ange continue à être uni à la personne, dans ce qu'on appelle dans l'au-delà, dans l'autre monde, dans la vie éternelle. Et il a quand même de quoi s'occuper. Il s'occupe avec la personne qui est morte. Vous voyez, j'allais dire qui est décédée. Avec la personne qui est morte, tous les deux, ils chantent la louange de Dieu. Ils bénéficient de la vie divine, ils sont illuminés par la vie divine. Et ça, en une progression permanente, éternelle. Éternellement, ils sont remplis, encore plus remplis de la gloire de Dieu, de la joie d'être unis à Dieu et de devenir Dieu eux-mêmes. Ils deviennent lumière avec la lumière. En prenant la lumière, ils deviennent ce qu'ils prennent. Et toujours d'une manière croissante. Donc, l'ange gardien n'a pas besoin de prendre du service auprès de quelqu'un d'autre. Les autres qui vont naître après vont avoir aussi leur ange gardien. Dieu est capable de créer un monde infini. Donc, il y a déjà eu, je ne sais pas combien de centaines de milliards d'hommes sur la Terre depuis la création, depuis le début de la création. Il y en aura peut-être encore quelques-uns à venir, peut-être encore beaucoup, j'en sais rien, je ne suis pas prophète, en tout cas je l'ai plein. Il y a eu autant, au moins autant d'anges gardiens, sans compter les archanges, les trônes, les dominations, les archanges et bien d'autres. Le monde est archi-peuplé, mais en pleine en totale croissance, Dieu étant infini, on ne dépassera jamais Dieu, donc Dieu continuera toujours à créer. Et voilà ce qu'il en est des anges. Par contre, ce qu'il faut apprendre, et ce qui est difficile, c'est à vivre avec son ange gardien. On en parle peu. On en parle peu, celui qui nous en parle, c'est Jésus, dans l'Évangile. On a un ange qui nous est préposé, qui fait d'une certaine manière l'intermédiaire entre Dieu et chacun d'entre nous. Il est notre protecteur de toutes les manières, et il est notre protecteur aussi pour les choses spirituelles, pour notre vie éternelle. Et il faut apprendre à vivre avec lui, lui demander son aide, le remercier, nos paroles sont ambiguës. L'ange gardien, c'est pas comme c'est pas il a pas une présence comme Jean-Baptiste ou Bénédicte à côté de moi. Même si on peut l'imaginer derrière, parce qu'on ne le voit pas, si vous voulez, mais présent. C'est pas une présence de cet ordre-là, c'est une autre forme de présence beaucoup plus grande. Donc, lui demander de l'aide, le remercier de son aide, vivre avec lui, c'est pas forcément lui parler, mais c'est avoir conscience de sa présence. Je vais vous faire part d'une expérience toute récente, parce qu'elle est de ce matin. Ce n'est pas une expérience mystique, hélas. Et comment dire, ce n'est pas une révélation extraordinaire. À la suite d'une conversation que je viens d'avoir avec Jean-Baptiste. Des fouilles ont été faites dans une grotte, dans la région d'Albi, entre Toulouse et Albi, et je ne vais pas vous la décrire, vous décrire les analyses qui ont été faites, mais ça fait que, avec les peintures qui sont dedans, Marie-Lise, si vous voulez, il y a de la restauration à faire, les hommes qui habitaient, qui ont, à défaut de la peuplée, qui sont entrés, qui ont laissé des peintures, cette humanité-là remonte à au moins 160 000 ans. Je ne vais pas vous faire une leçon, c'est pas une leçon de science que je vais vous faire faire, mais vous dire qu'on a dans notre prière, on prie avec Abraham, avec Moïse, avec les prophètes, et on remonte. Quelquefois dans notre, quand on lit les Saintes Écritures, ou quand dans des moments par divine grâce, il nous arrive de prier même, de sentir qu'on est en communion aussi avec Adam et Ève. Vous rendez compte, Adam et Ève, ils ont plus de 160 000 ans. Parce que ceux-là dont on parle, ce n'est pas forcément encore les premiers. C'est le plus loin où on est remonté, à ma connaissance. Mais on sent cette communion, vous pouvez sentir cette communion avec Adam et Ève. Eh bien, ce matin, pendant que je célébrais la proscomédie, pendant que je mettais les parcelles pour les noms, tous vos noms, et le nom de tous les vivants et de tous les défunts pour lesquels on veut prier, quand je mettais ces parcelles-là sur le discos, j'avais conscience que ces gens, ces hommes et ces femmes d'il y a 160 000 ans étaient là aussi. Pas chrétiens et pour cause. Christ devait encore attendre 160 000 ans avant qu'il n'arrive. Alors, je ne parle pas des 2000 qui restent là, c'est une bricole. Mais vous comprenez bien que cette présence avec ces hommes et ces femmes dont on ne parle même pas dans les Saintes Écritures, qui sont nos très 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 lointains ancêtres, vous comprenez bien qu'il n'y a pas une relation télépathique, il n'y a pas une pensée qui nous unit, il n'y a pas non plus une affection, un mouvement affectif. Je peux en avoir pour vous, je ne peux pas en avoir pour eux. À part les bouts de bâton brûlés qu'ils ont laissés dans la grotte, c'est le seul témoignage qu'on a d'eux. C'est pas suffisant pour les aimer. Et pourtant, l'office de la proscomédie, qu'on prépare l'agneau et qu'on met toutes ces parcelles pour la Mère de Dieu, pour les anges, les saints, les vivants et les morts, il y a une réelle communion qui s'exprime. Et ce matin, je sentais cette communion avec eux, mais qui est sans, qui est de l'amour, mais c'est pas un amour affectif. Eh bien, il y a une relation semblable avec nos anges. Notre ange gardien, on peut pas avoir un amour. Donc, c'est notre amour, il est d'un autre ordre, mais il est pourtant réel. Si on peut dire, je n'ai pas le vocabulaire pour l'expliquer, mais cet amour-là, c'est qu'une intuition, c'est une pensée, on peut dire, une réjouissance du cœur. On sait qu'il est là. Beaucoup d'entre vous ont perdu leur père ou leur mère, âgés ou par maladie, et vous pouvez avoir la même expérience. Papa et maman sont morts, on a eu un chagrin quand ils sont morts, mais au bout d'un certain temps, le chagrin s'estompe, on en a le souvenir, bien sûr, mais quand on est dans le calme, quand on est dans quand le cœur est en paix, on oublie même nos souvenirs, on oublie les aventures, les conversations, ou nos chamailleries, éventuellement, on oublie tout ça, et de voir un objet qui leur appartient, une photo, à plus forte raison si c'est une icône et tout ça, tout d'un coup notre cœur devient chaud, devient chaleureux. Il y a une joie qui entre en nous et qui n'est pas directement un dialogue en disant « Ah, tu te rappelles papa quand on faisait ça ensemble ?» C'est pas du tout de cet ordre-là, ni des complexes. « Ah, tu sais maman, vraiment, avec où je m'en veux de t'avoir... de m'être chamaillé avec toi. » Tout ça, ça n'existe plus. Mais on les voit, il y a une chaleur qui rentre. Cette chaleur-là, c'est une communion. C'est une expression de la communion. C'est la même expérience que vous pouvez avoir, que nous pouvons avoir et que nous avons avec le Christ et avec la Mère de Dieu ou avec les saints. On fête Saint-Nicolas aujourd'hui. Laisser tomber les statuettes en chocolat et les cadeaux qu'on se fait dans certains pays, laisser tomber tout le folklore qui s'agrège au souvenir de Saint-Nicolas. On a célébré la liturgie avec lui, en communion avec lui. On sentait la présence de Saint-Nicolas, on sentait un amour, une chaleur par la présence de Saint-Nicolas. Bien ça, c'est quelque chose que rien d'humain ne peut effacer. On peut simplement y être plus ou moins attentif, ou attentif à certains moments plus qu'à d'autres, mais c'est quelque chose de notre expérience spirituelle, d'une expérience de la communion les uns avec les autres. Par la liturgie, par la communion eucharistique, la communion que nous prenons avec la petite cuillère, nous sommes en communion avec toute l'Église, y compris avec les petits Chinois qui ont communié clandestinement un jour ou l'autre d'ailleurs, notamment aujourd'hui, on est en communion avec... Et pourtant, vous ne pouvez pas me dire que vous avez une affectivité particulière pour eux, vous ne les connaissez pas. Et pourtant, ils sont là. Pourtant, on est avec eux. Bien, avec nos anges, c'est la même chose. Et cette communion-là, vous voyez bien que même si, puisque on est capable de sentir la communion avec papa et maman qui sont morts depuis 40 ans, ou avec ces hommes et ces femmes d'il y a 160 000 ans, on peut avoir le même amour et la même au-delà du temps avec nos anges et avec les saints. Dans notre imagination, où on voit les choses d'une manière humaine, on imagine le paradis, le royaume des cieux, l'au-delà, le ciel, appelez-le comme vous voulez, il y a plusieurs noms. C'est une réalité qu'on ne peut difficilement expliquer rationnellement. Cette réalité-là, elle est... Petit à petit, il faut apprendre à dépasser nos expressions. Il y a un terme savant que je ne vais pas vous expliquer, mais je dis pour que vous connaissiez, vous le retrouverez quelquefois peut-être. Notre théologie, elle est apophatique. Ça veut dire qu'elle se passe de mots. Elle est au-delà des mots. Par exemple, on ne peut pas dire que Dieu est bon. Bien sûr que Dieu est bon. Mais qu'est-ce que c'est que la notion de bonté attribuée à Dieu ? Dieu est tellement au-delà de la bonté même. Il n'y a pas de mots qui correspondent. Si on dit que Dieu est bon, c'est une forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire de prêter à Dieu une forme humaine. Anthropos, qui veut dire l'homme, et morphie, la forme. On attribue à Dieu, on dit que le Christ est le bras droit de Dieu. Est-ce que Dieu, qui est un esprit, a un bras droit ? Et pourtant, en disant ça, on explique bien quelque chose. C'est exactement, presque exactement, il y a des nuances. Comme quand Louis de Funès appelait sa femme ma biche, elle n'avait pas quatre pattes. Et ça, c'est des petits fonds qui vont frapper à la porte d'Hélène, mais en théologie, ça ne marche pas. Et attribuer à Dieu de la bonté ou de la colère, ou de la miséricorde, c'est des mots qu'on est bien obligé d'utiliser parce que c'est les seuls mots qui sont à notre disposition, mais Dieu va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus grand que ça, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça chez Dieu. Donc, notre conception du ciel, du royaume de Dieu, de la vie éternelle, elle doit être aussi apophatique. C'est-à-dire que toutes les images sacrées, les icônes que l'on a du royaume des cieux révèlent bien quelque chose du royaume, mais c'est fade, c'est rien à côté de la réalité. Et on s'imagine que dans le paradis, on sera sans souffrance, sans menace de mort, sans être obligé de se fatiguer, sans être obligé de manger, on sera dans la béatitude complète, tranquille, parce qu'on imagine le royaume comme notre vie d'aujourd'hui qui se continuerait avec les inconvénients en moins. Ce n'est pas de cet ordre-là. Il y a une différence aussi grande entre notre vie d'aujourd'hui et celle qui sera dans le royaume des cieux qu'il y a aujourd'hui entre notre vie physique et notre pensée, ou entre notre pensée et notre amour. Vous voyez bien que c'est des notions, des réalités qui sont complètement, pas étrangères, mais qui sont à chaque fois d'un autre ordre. Je me fais mal, je sens ça dans ma chair. Mais vous faites j'ai de l'amour pour vous à cause de ce que vous faites pour moi. C'est d'un autre ordre. ça n'a rien à voir avec la douleur. Et si vous me faites de la peine, je veux dire, ça me fait mal, mais ce n'est pas, c'est pas du mal à proprement parler. Et le royaume des cieux, c'est donc d'un autre ordre. Et on s'imagine qu'on va être dans le royaume des cieux comme des personnes juxtaposées, comme ça, mais nous entendons bien, on va retrouver papa, maman, ça. D'où la question qui se pose aussi de savoir si on ne va pas retrouver notre chien ou notre chat ou notre cheval. La question est souvent posée, et elle se pose effectivement. C'est pas une bêtise que de la poser. Mais c'est pas de cet ordre-là. C'est d'un autre monde. Dans le royaume des cieux, on va pas retrouver Jean-Baptiste, Sœur Sylvanie, Bénédicte et vous tous comme des individus, comme des pères. Nous serons unis dans une même pâte. Ça aussi, c'est une image, évidemment. Mais chacun restera distinct. Émilie ne sera pas Simon, ne sera pas Jean-Baptiste, ne sera pas Denis. Chaque personne reste une personne. Mais en même temps, nous serons tous unis les uns les autres, les bons comme les mauvais, tous ensemble. D'où celui qui ne acceptera pas ça, qui ne s'est pas préparé à ça sur terre, quelle souffrance quand éternellement il va être obligé d'être à côté ou avec, ou un avec ceux qu'il n'aime pas. Ça, c'est l'enfer. Je vais prendre un exemple qui est mauvais. Quand vous avez un pot de peinture soluble à l'eau, que vous jetez le pot de peinture dans la mer, est-ce que la peinture va devenir mer, va être unie à la mer? Mon exemple est mauvais parce que la peinture se dissout, donc elle n'existe plus en quelque sorte. Mais les molécules qui sont à la base de la peinture, elles, ces molécules-là existent encore dans la mer. Et les molécules ne se fondent pas dans la mer, mais sont unies à la mer. Donc d'une certaine manière, toutes les molécules de toute la mer, de tous les océans et de toutes les pluies sont unies les unes aux autres. Bien, notre vie dans l'éternité et avec nos anges, ce ne sera pas une vie de juxtaposition, ce sera une vie d'expérience, bon, les mots me manquent, mais d'une expérience commune, d'un amour commun. Mais l'amour de Jean ou l'amour de Marlène, ça sera l'amour de Jean et de Marlène. Ce sera vraiment la distinction des personnes dans l'unité des natures. Et si vous voulez comprendre ça, vous n'avez qu'à vous enfoncer dans la vie spirituelle et découvrir de plus en plus, avec la grâce de l'Esprit Saint, ce qu'est la vie de la Sainte Trinité, où nous savons que nous n'avons qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce Dieu est trois personnes égales, indissolubles, non mélangeables, mais pourtant parfaitement unis. Eh bien, dans le royaume des cieux, nous ne serons pas trois à ne faire qu'un, nous ne ferons qu'un en étant des milliards. Et c'est la même chose. Et nous serons une nature commune avec la nature divine, parce que en Christ, qui a pris toute notre nature, nous devenons un avec lui, et comme lui est un avec son Père et l'Esprit Saint, nous viendrons un. Et nos anges avec. Et les autres anges qui ne sont pas les nôtres propres, Saint-Michel, Saint-Gabriel, les archanges, les trônes, les dominations. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à la question qui a été posée. Je comprends que vous soyez découragé d'en poser d'autres, parce qu'à chaque fois, la réponse est trop longue, alors vous ne voulez pas aller plus loin. C'est encore une manière pédagogique de nous permettre d'accéder un petit peu à cette réalité angélique. C'est plutôt, si on voulait préciser, il faudrait mettre toute une périphrase, il faut dire, accorde-nous de nous ouvrir à la réalité de la présence de notre ange gardien. Beaucoup de choses sont comme ça. Reprenez tous les textes de nos prières, quelques liturgiques ou prières personnelles, vous verrez que tout, chaque mot est à comprendre autrement. C'est un faible moyen qui est à notre niveau, qui est à notre portée, pour exprimer quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que le sommet, comme dit saint Paul, et pas simplement lui, mais le sommet tout, c'est l'amour. L'amour, c'est ce jaillissement de son cœur, un don de soi, de tout notre être, qui nous fait nous porter vers l'autre ou vers les autres et recevoir l'autre et les autres. Et cet amour-là nous est impossible à apprendre humainement. Seul l'Esprit Saint, qui est amour, peut nous le communiquer. Donc c'est dans l'expérience, pardon, de la vie profondément chrétienne, de la vie de foi, que l'on peut découvrir ces réalités-là et découvrir l'amour lui-même. C'est pour ça qu'un monde sans christianisme, notez que je ne parle pas de morale, c'est bon, ceci est vrai pour les bons comme pour les mauvais. Simplement, quand je suis mauvais, si... Je ne sais pas quel exemple prendre, mais si je fais le mal dans ma vie, ça me rend opaque, ça me rend insensible à toute cette réalité-là. Mais la réalité-là, elle existe quand même. Et même si je suis mauvais, le Christ est là, je suis un avec le Christ. Et ma conversion, on va le voir dans un instant, la conversion consiste non pas forcément à devenir meilleur, il faut tendre à devenir meilleur, mais ce n'est pas en devenant meilleur moralement, mais en apprenant à s'ouvrir justement à un autre amour, à un amour qui est l'amour de Dieu, qui est donné à profusion pour les bons comme pour les mauvais. Et c'est un amour qui n'est pas, je dis qu'on ne peut pas apprendre par une éducation. C'est simplement à recevoir l'Esprit Saint en nous, et même si on n'arrive pas à changer, à devenir moralement meilleur, il n'empêche qu'on peut ouvrir son cœur et être véritablement avoir une authentique vie mystique. Quand je dis vie mystique, je ne parle pas d'une vie avec des visions, des phénomènes extraordinaires, de la lévitation, je ne sais pas quoi d'autre. La vie mystique, c'est une vie mystérieuse, c'est la vie du mystère, c'est-à-dire de l'union avec Dieu, qui passe à travers cette forme d'amour. Et ça tombe bien parce que l'évangile d'aujourd'hui, le premier évangile, l'évangile, il y avait deux évangiles, un évangile pour la fête de Saint-Nicolas et un évangile pour le dimanche. Et l'évangile du dimanche tourne un petit peu autour de ça. Je ne vais pas faire à chaque fois le lien parce que sans quoi je vais vous retenir trop longtemps. Mais je voudrais relire avec vous ce passage de l'évangile d'aujourd'hui qui, hélas, comme je vous fais remarquer presque tous les dimanches, hein, avec les traductions que l'on a habituellement, qui sont des traductions débiles, on passe complètement à côté de la signification véritable de l'Évangile et de ce que le Christ a voulu nous dire, nous montrer, nous enseigner, auquel il a voulu nous initier. Et je vais vous le lire sous une autre version, avec une autre traduction qui n'est pas parfaite, mais qui est déjà meilleure. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Il, donc Jésus, hein, était à enseigner dans une des synagogues un sabbat. Il y a tout un thème là-dessus, il y a toute une explication de la lutte avec les pharisiens et tout ça, quand il est très hypocrite et tout ça, ce qui petit à petit l'a conduit à la condamnation, à l'opposition avec les pharisiens, et à sa condamnation sur la croix par le biais des Romains. Mais c'est pas de ce sujet-là que je vais vous entretenir. C'est sur autre chose. Mais on est, comme c'est dans l'Évangile, on ne peut pas le barrer non plus. Et voici une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser. Pas du tout. Jésus la voit l'interpelle et lui dit « Femme, tu es déliée de ton infirmité. » Il lui impose les mains, soudain elle est remise droite et glorifie Dieu. Le chef de la synagogue intervient, et là on retombe sur cette opposition aux pharisiens. Je passe sur ces quelques versets-là. Donc, elle est remise droite, et le Christ dit, c'est injuste de la guérir un jour de sabbat. Et celle-ci, qui est une fille d'Abraham, et que le Satan a liée, voici 10 et 8 ans. Il ne fallait pas la délier de son lien le jour du sabbat? Maintenant, je vous montre la différence dans les traductions. Vous avez entendu dans les premiers versets, dans le début du chapitre, une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Et là, à la fin du récit, en grec, c'est pas les mêmes mots qu'ils ont dit. Et celle-ci est une fille d'Abraham et le Satan a lié, voici 10 et 8 ans. Ce n'est pas 18, c'est 10 et 8. Pourquoi on ne traduit pas comme c'est dit en grec? Ce ne pas les mêmes mots. Et pourtant, si le Christ a dit 10 et 8, 10 d'abord, et puis 18 d'abord, et puis après 10 et 8, c'est qu'il y a une insistance. Il insiste vraiment, ce n'est pas n'importe quel chiffre, c'est vraiment 10 et 8. Eh bien, quand on se reporte dans l'Ancien Testament, dans le livre, il y a deux livres qui en font parler, le livre de Josué et dans les Juges. Mais je ne sais plus quel verset est attribué, enfin, peu importe, le thème est là quand même. Et, on voit que les Hébreux ont été tenus en esclavage pendant un livre dit pendant 18 ans et un autre livre dit pendant 18 ans. Mais c'est pas les mêmes épisodes. Mais j'ai pas eu le temps de rechercher à quoi ça correspondait exactement. Ça veut dire que quand le Christ dit que ça fait 10 et 8 ans avec cette insistance, ça veut dire qu'il fait allusion au peuple ancien, au peuple hébreu, à ses origines, qui a été tenu en soumission pendant la même période de temps. Autrement dit, l'expérience de la femme qui est guérie aujourd'hui dépasse son cas personnel. C'est toute la reprise de l'histoire du peuple. Donc c'est toute l'humanité qui est concernée par le miracle-là. D'ailleurs, depuis 18 ans, elle est toute courbée et ne pouvait pas se redresser. Et il y a une insistance, pas du tout. C'est une forme de... C'est pas dit comme ça, c'est pas une paralytique, mais il y a une forme de... Elle ne peut pas du tout se redresser. Elle a beau faire des efforts, elle ne peut pas. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas notre condition? Combien de fois on est dans le marasme moral, spirituel? Combien de fois on prend conscience de notre éloignement de Dieu? Quelquefois d'une manière dramatique. Et il faut apprendre d'ailleurs à être lucidement confronté à cette tentation du désespoir en disant « jamais je ne pourrai me rapprocher de Dieu ». C'est le début, l'ABC de la vie spirituelle. Il faut prendre conscience de notre condition déchue. Notre condition où nos efforts, notre volonté sont rien du tout à côté de ce qu'il faudrait faire. L'Évangile dit, elle avait un esprit d'infirmité. Elle l'avait. Personne ne dit qu'elle a été... Il n'est pas dit qu'elle a été le chercher. Elle est comme ça. Elle est comme ça, elle ne peut pas faire autrement, pas du tout. Eh bien, nous aussi, nous avons un esprit d'infirmité. C'est l'esprit diabolique qui est en nous. C'est l'expérience du péché qui est... C'est-à-dire de notre condition de péché, pas de nos péchés. Qu'est-ce que ça peut faire, les petits vols ou les gros vols qu'on peut faire par-ci, par-là? Qu'est-ce que ça peut faire, la drogue que l'on prend? Je ne vous invite pas à vous droguer pour autant, hein. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pour chacun d'entre nous l'expérience individuelle, l'expérience personnelle du péché qui est dans le monde, du péché qui est notre incapacité de nous tourner vers Dieu et de renoncer à notre égoïsme. Certainement, il est plus grave de tuer sa belle-mère parce qu'elle ronfle trop fort que de voler le lapin de sa voisine. Il y a un degré moral, bien sûr. Mais au fond, qu'est-ce qui va être le pire? De voler le lapin de sa voisine qui n'a que ça et qui va par méchanceté, ou de se prendre une overdose parce qu'on n'a pas de volonté et puis qu'on a... Vous pouvez le juger, vous? Alors, je ne vous dis pas de choisir entre les maux et les péchés, bien sûr. La vie morale a aussi son importance parce qu'elle nous rend aptes à sentir ou pas toutes ces choses-là. Donc, l'expérience de la femme toute courbée, c'est la nôtre. On regarde à nos pieds, on n'arrive pas à se redresser. On le souhaiterait quelquefois, on le voudrait, mais on ne peut pas, pas du tout. La suite, Jésus la voit. Vous savez, dans les autres, dans la plupart du temps, dans les récits d'évangiles, dans les récits de miracles, dans les évangiles, on voit que le Seigneur d'abord répond à un malade, à un possédé ou à son entourage, et il lui demande d'abord la foi. Si tu as la foi, je te guéris. C'est dit un peu plus subtilement que ça, mais enfin, c'est à peu près ça. C'est-à-dire une manière de solliciter la foi. Là, il lui demande rien. La femme, elle n'a rien demandé. Elle est dans la foule, elle est là, dans la synagogue, elle est courbée. Et c'est le Christ qui la voit. Et si cette femme courbée représente l'humanité malade du péché, infirme, courbée, si on l'interprète comme ça, quand Jésus la voit, c'est-à-dire que Jésus fait attention, est attentif, il voit l'humanité qui est la nôtre, dans laquelle nous sommes. Il voit cette humanité déchue, courbée, malade, paralysée. Il l'interpelle, c'est pas elle qui l'a interpellé, c'est lui qui l'interpelle, c'est-à-dire c'est lui qui prend les devants, c'est lui qui prend l'initiative de la guérison que l'on sait qui va arriver après. Et il lui dit, sans rien lui demander en échange, femme, tu es délié de ton infirmité. Ça, c'est fort. D'abord, il l'appelle femme. Il l'appelle pas Berthe, Almédorine ou Joséphine. Il l'appelle femme. C'est le même nom qu'il a donné à sa mère quand il était aux noces de Cana. En utilisant ce mot-là, ça montre que il prend cette femme pour autre chose qu'une dame, qu'une femme. Dans ce sens-là. Il la comprend, il la voit, il montre qu'il faut la comprendre comme l'humanité. Qui est cette femme? Cette femme, c'est une épouse. C'est l'épouse du Christ. C'est l'humanité que le Christ est venu épouser sur terre pour la faire sienne, pour que de deux êtres, l'être divin et l'être humain, ne fassent plus qu'un. Ce qui est le signe. Et ce dont le sacrement du mariage est le signe. Donc, à l'humanité, il dit, tu es délié de ton infirmité. Donc, ça s'adresse à nous, ça. C'est nous qui sommes déliés de notre infirmité. Et maintenant, on peut être redressé. Mais j'insiste encore sur ce que je disais tout à l'heure. C'est pas nous qui pouvons nous redresser, c'est nous qui sommes redressés. Jésus, je reviens avec la femme, lui impose les mains et soudain, elle est remise droite et glorifie Dieu. Soudain, On ne dit pas, comme c'était traduit dans la traduction de ce matin, c'est pas que tout soudain elle se redresse. Non, elle ne se redresse pas. Elle est redressée. C'est pas pareil. Elle a un tuteur. Elle a une ossature. Elle a une structure qui lui est donnée. C'est comme ça qu'elle est redressée. Mais c'est Dieu, c'est le Christ en l'occurrence. C'est le Christ qui redresse la personne. L'initiative et l'action lui vient de lui et de lui seul. Et elle accepte ça. Et nous sommes dans la même situation. Nous sommes redressés par la vie divine en nous et non pas par notre activité. Il faut collaborer à cela. Notre prière, notre ascèse, notre oration, nos efforts d'écarter nos passions et d'entrer dans la vertu, de faire venir les vertus, tout ça, c'est une collaboration à l'œuvre de Dieu, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est Dieu qui le fait. Et le résultat, étant redressée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle glorifie Dieu. Elle n'a rien demandé. Mais avant, si elle était dans la synagogue, c'est qu'elle avait quand même un certain souci de Dieu. Elle était là pour apprendre les Saintes Écritures et entendre les rabbins faire leurs commentaires. Mais maintenant, son cœur, parce qu'elle est redressée, son cœur retrouve son activité propre. Elle glorifie Dieu. Et la glorification, c'est cette reconnaissance d'amour dont je vous parlais précédemment, cette communion expérimentale avec Dieu et avec les autres. Et pourquoi voilà ce que je voulais vous en dire. Et justement, cet évangile-là est mis juste avant Noël. Je sais bien que Noël, c'est pas dimanche prochain. Hein. Mais avant, il va y avoir les fêtes de dimanche des saints ancêtres, des prédécesseurs du Christ. Et avant ça, aujourd'hui, cet évangile-là nous est mis. Parce que c'est notre histoire dont il est question. Nous sommes courbés. Nous ne pouvons absolument pas nous redresser. Pas du tout. Mais il y en a un. Jésus, celui qui s'était présenté à la synagogue, qui revient avec l'Esprit Saint aujourd'hui encore, s'incarne. Le mystère que nous allons fêter, pas qui va arriver, mais que nous allons fêter, auquel nous reparticipons tous les jours, et qu'on va célébrer solennellement à Noël. Là, il nous redresse, il nous redonne la vie, et le résultat de cela, c'est que nous entrons dans un nouveau mode d'existence, un mode d'existence d'exultation, de glorification. On retrouve notre communion avec Dieu. Et ces glorifications-là se manifestent de plusieurs manières, une espèce d'exultation intérieure, on ne ressent pas toujours, mais à certains moments, où on peut... Toute notre vie, l'espace de temps que Dieu nous donne est une manière d'apprendre à croître dans cette glorification. Et c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect de glorification, c'est de vivre autant que faire se peut, progressivement, en fonction de notre maturation personnelle, de vivre à l'image de Dieu, d'être des représentants, des réflecteurs de la lumière divine et de vivre des mêmes sentiments que Dieu. Et là, je fais encore de l'anthropomorphisme, évidemment, en attribuant à Dieu des sentiments, mais en étant nous-mêmes des êtres lumineux, des êtres d'amour, des êtres de pardon, des êtres de patience, des êtres miséricordieux, enfin, tout ce que l'Évangile et la tradition de l'Église nous invitent à faire.